Bien, bonjour à tous. Je crois que j'ai vu presque tout le monde, mais bonjour quand même. Est-ce que vous connaissez cette image? Vous l'avez déjà vue quelque part, je suis sûr. Bravo. Il n'y a pas trop de jeunes, alors c'est vrai que les jeunes auraient eu plus de mal à trouver. Mais effectivement, sur un timbre-poste, ou bien sur les pièces de monnaie aussi, les pièces en francs, c'est une semeuse. C'est en effet un emblème de la France. La culture céréalière a depuis toujours pris une place vitale dans l'activité humaine. Pendant très longtemps, les céréales ont été utilisées comme monnaie d'échange. Et par exemple, au Moyen-Âge, on payait les impôts en céréales. D'après Wikipédia, elles ont permis l'essor des grandes civilisations. Et encore aujourd'hui, les céréales fournissent 45% des calories alimentaires de l'humanité. 45%, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population sur Terre est nourrie avec des céréales. Alors vous avez compris, ce matin on va parler agriculture. En tout cas, l'importance de la culture céréalière n'était pas étrangère à Jésus, qui a illustré plusieurs de ses propos avec des paraboles agricoles. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 2 à 20. C'est la parabole du semeur ou la parabole des terrains. Et je lirai bien sûr dans la version du semeur. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous sont confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils reçoivent le pardon de leurs fautes. » Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment alors comprenez-vous les autres ?» Et comme Jésus avait envie qu'on comprenne cette parabole, c'est lui-même qui nous donne l'explication. Au verset 14, il nous explique que le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Bien sûr, cette parabole nous emmène bien évidemment sur le sujet de l'évangélisation. Mais pas seulement sur l'évangélisation. Bien sûr, elle parle de la diffusion de l'évangile. Bien sûr, elle nous enseigne que certains cœurs ne sont pas réceptifs non plus. Pourtant, je suis certain que vous êtes en train de vous demander, comme je l'ai fait, quel terrain vous êtes, ou au moins quel terrain vous n'êtes pas. Et je crois que c'est justement le but de cette parole, de notre Seigneur. Jésus s'adressait d'abord à ses disciples, en ajoutant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Autrement dit, appliquez-vous à bien écouter mes paroles et à bien les comprendre. Si le Seigneur Jésus s'adresse à ceux qui sont ses disciples et dont nous faisons partie, c'est peut-être parce que justement nous pouvons être tour à tour chacun de ces terrains. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Vous est-il jamais arrivé de lire la Bible et de ne rien en retirer? Moi oui. Il y a des jours où la parole de Dieu n'a aucun écho en moi, comme si mon cœur était imperméable à la parole de Dieu. Alors l'erreur classique est de penser que Dieu n'a rien à nous dire. Mais je crois qu'il faut comprendre que je me trouve au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ai-je entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en moi. Pour continuer dans la métaphore agricole, cette parole glisse sur moi comme de l'eau sur un sol trop sec. L'eau a toujours un effet bénéfique, comme la parole. Mais si la terre est trop sèche, comme l'est parfois mon cœur, l'eau n'a aucun effet. À nous de trouver déjà le bon moment, le bon endroit pour écouter Dieu, ou plutôt même pour entendre Dieu. Tiens. Moi, je veux pas. Il n'y a pas une règle unique concernant la lecture de la Bible. Nous sommes tous différents. Par contre, nous pouvons et nous devons demander à Dieu de nous faire éclairer, de nous éclairer sur les paroles qu'on lit. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Il arrive aussi parfois que qu'on lise un verset qui va nous faire du bien immédiatement, mais qu'on oublie dans les minutes qui suivent. Et puis, à la première occasion, premier obstacle, je redeviens comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je vais me faire du souci, je vais douter, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On entend parfois des gens qui disent « Pourquoi Dieu permet-il telle ou telle chose ?» La seule chose dont nous pouvons être certains, c'est que nous ne savons pas tout. Et nous ne pourrons jamais tout expliquer, du moins ici-bas. Mais nous pouvons nous appuyer sur Dieu et nous pouvons aussi nous appuyer sur ses promesses. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas bien pour moi. » Ou encore dans Philippiens 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Je crois que c'est les ronces notre pire ennemi. Il y a des moments où nous pouvons aussi être des chrétiens du dimanche. Nous venons à l'église le dimanche, nous prenons du plaisir à être au culte, nous louons le Seigneur avec ferveur. Je dis nous, mais je devrais parler uniquement pour moi. Combien de fois je me suis dit que ma vie du lundi ne ressemblait pas à celle du dimanche. Les soucis du quotidien effacent le bienfait du culte du dimanche. Alors soit on se décourage et on abandonne, soit on persiste et on se dit que Dieu nous aime le dimanche et le lundi de la même façon. La petite voix qui nous dit « Tu vois, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas digne de ton maître. » Cette petite voix ne vient pas de Dieu, soyez-en sûrs. Nous ne méritons rien, on est d'accord. Mais c'est seulement par grâce que nous sommes appelés ses enfants. Si nous ne sommes pas vigilants, nous avons vite fait de nous laisser envahir par les choses du quotidien. Bien sûr, nécessaire. Il ne faut pas prendre ce verset comme excuse pour négliger ses obligations. Mais c'est la disposition de cœur qui est importante. Et puis, il y a la bonne terre. Ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Cette bonne terre à laquelle nous avons tous envie de ressembler, une terre fertile qui produit du fruit, beaucoup de fruits, 30, 60 ou 100 pour un, en sachant qu'à l'heure actuelle, un épi de blé porte entre 45 et 50 grains. Et si on prend en considération les progrès de l'agriculture, la sélection des meilleures semences, etc., ainsi que tout le soin apporté aux cultures, je pense que les rendements ont largement augmenté depuis l'époque de Jésus. On peut imaginer que le rapport pour un grain que le Seigneur Jésus nous propose, c'est parfaitement utopiste, avec un regard humain tout du moins. En fait, on a simplement ici une magnifique promesse. Une promesse de porter du fruit plus que de raison, plus que ce que nous espérons. Quel jardinier ne serait pas content de récolter des tomates deux ou trois fois plus grosses que celles du voisin? Mais j'aimerais revenir à un élément essentiel de ce texte. On a naturellement une attirance à s'identifier à l'un des terrains. Mais en fait, ce à quoi il faut peut-être aspirer, c'est d'être soi-même le semeur. Et non plus simplement celui qui accueille la parole, ce qui n'empêche pas d'être une bonne terre. Je m'explique. La parole semée dans notre cœur s'épanouit. Elle devient une belle plante et porte du fruit. Ce fruit n'est rien d'autre que la future semence. Et cette semence, c'est la parole. Notre parabole commence ainsi, un semeur sorti pour semer. Quoi de plus normal? Un semeur sème. Ceci dit, il aurait pu rester chez lui, devant sa télé, ou se faire un resto avec les copains. Non, il fait simplement son travail. On ne sait pas ce qu'il fait d'autre. On n'en parle pas beaucoup dans cette parabole, mais il sème. Si c'était un peintre, il serait sorti pour peindre. Et un évangélique, que fait-il? Il sort pour évangéliser, c'est évident aussi. Et puis après, le semeur ne reste pas à attendre que la graine pousse et produise son fruit. Bon, il va sûrement trouver un autre champ et continuer à semer, parce que c'est le bon moment pour ça. Il faut se dépêcher, la saison des semailles est très courte en général. Les conditions sont bonnes. Pour nous, personnellement, nous vivons dans un pays de liberté, une liberté rare aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de chrétiens persécutés à l'heure actuelle qu'au premier siècle? Je pense que nous devons nous dépêcher avant l'hiver. Par contre, notre semeur, il sera sûrement content de voir le fruit de son travail. Mais rien ne dit que c'est lui qui moissonnera. De la même façon, nous ne savons pas ce que devient un verset glissé dans une conversation, distribué dans la rue. Une parole donnée est toujours une parole semée. Alors j'ai retrouvé dans les affaires de mon père, je sais même pas où je l'ai mis, un tout petit article de journal, du journal Croire et Servir, qui existe toujours, maintenant il s'appelle Croire et Vivre. Alors ça m'a attiré mon attention parce qu'il l'avait photocopié plusieurs fois et que dans une pochette, je l'ai retrouvé trois ou quatre fois. En 77, décembre 77. Et cet article, il dit ceci. États-Unis, durant les 39 ans passés, un chrétien méthodiste d'Alabama a jeté dans la rivière près de chez lui des bouteilles remplies de traités d'évangélisation et de portions d'évangile. Les 30 000 bouteilles ainsi confiées au courant lui ont rapporté plus de 5 000 lettres provenant d'une trentaine d'États des USA et de plusieurs pays étrangers. Une église au moins a été fondée par des gens convertis par le contenu d'une seule bouteille. Alors je vous rappelle, cet article date de 77. On n'imaginait pas à l'époque l'impact sur la nature qu'une telle action pouvait avoir. Alors je ne vous conseille pas de suivre son exemple. Je pense que les océans n'ont pas besoin d'être pollués davantage. Mais voilà quand même un bel exemple de semeur qui sortit pour semer. Donc on a de la bonne semence avec la parole de Dieu, parole de vérité, parole de vie. De la même façon que la graine porte la vie en elle, la parole est la vie. On essaye d'avoir la bonne terre, on peut donc porter du fruit. Pas tout à fait encore. Même si ce n'est pas précisé dans le texte, tous les jardiniers savaient bien que ça pousse pas si facilement. Il nous faut arroser, désherber, il faut entretenir ce petit plant. Vous savez bien que lorsque la terre est bien préparée, bien retournée, qu'il n'y a plus de cailloux, Vous semez, et qu'est-ce qui pousse en premier ? C'est les mauvaises herbes que vous n'avez pas plantées. Le Seigneur nous rappelle ici qu'il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs, et que avant de porter du fruit, nous devons grandir, nous ancrer dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu une plante porter du fruit avant d'avoir atteint sa taille adulte. Il faut souvent beaucoup de patience et de travail avant de commencer à récolter. Et il suffit tellement de peu de choses pour n'avoir aucun résultat. Je veux dire par là que nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Je ne pense pas que notre petit plant de blé a pour objectif de porter du fruit, c'est pas son but. Il va naturellement chercher à se nourrir, il va simplement essayer de vivre. Et il va tout aussi naturellement faire belles racines. Et puis un jour, sans comprendre pourquoi, il portera du fruit. Les racines, c'est ce qui ne se voit pas, c'est la partie cachée de la plante. Une plante sans racines ne peut pas vivre, c'est tout simplement inconcevable. Et pourtant, combien de personnes se disent chrétiennes et ne cherchent pas à s'approcher de Dieu ? Un semeur sorti pour semer. Nous sommes tous des semeurs potentiels. Semer, c'est une action facile, hein, si vous avez déjà tenté l'expérience. C'est presque frustrant, c'est tellement vite fait, tellement facile que, une fois la petite graine posée à terre, recouverte, c'est fini, c'est semé. On a envie de lui apporter un peu plus, un peu d'engrais, un peu d'eau. Il en faut un petit peu. Mais souvent, il suffit simplement d'attendre, de laisser la graine germer et de faire son chemin. De la même façon, je ne sais pas si on a toujours conscience qu'un petit verset comme ça, offert comme un cadeau, peut germer des années après. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, un tout petit peu plus loin, il y a une autre parabole. Au verset 27, c'est toujours sur le sujet du semeur, c'est une autre parabole. « À présent qu'il, donc le semeur, dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. » La graine est semée et le temps fait son œuvre. Mais un verset, par contre, qui reste bien au chaud dans la Bible, dans un tiroir, n'a pas beaucoup d'impact sur la vie de nos concitoyens. De la même façon, une graine qui reste dans son petit sachet ne germera jamais. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité ? Je ne sais pas si elle passe pas encore, d'ailleurs. Qui disait, une publicité pour la Loterie Nationale, qui disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors bien sûr, pour un gagnant, il y a beaucoup de perdants. On est d'accord. Mais ça marche. Il y a de vrais gagnants. Bien, j'ai envie de vous dire la même chose. 100% des chrétiens ont entendu l'évangile un jour. 100% des épis de blé ont vu leur vie commencer par une petite semence aussi. Mais si personne ne plante cette petite graine, il ne pousse jamais rien de bon. Uniquement des ronces qui vont prendre toute la place. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, je vous rejoins complètement sur ce sujet, je ne connais pas suffisamment la Bible. Ou alors je connais certains versets, mais je ne suis pas capable de les retrouver, ou encore moins de les placer au bon moment. Et c'est pour cela qu'il faut s'équiper correctement. Même si aujourd'hui il est facile de dégainer son smartphone pour trouver un verset, je pense qu'il est important de bien connaître la parole. Et puis nous avons aussi une force intérieure, une puissance inouïe, le Saint-Esprit. Ne l'oublions pas. La parole n'est rien si notre Dieu ne lui donne pas la vie. La parole est la vie. Quand cette parole vient de Dieu. Alors avec humilité, laissons-nous guider par l'Esprit. Prenons racine dans la parole de vie et dans la prière. Il est essentiel d'avoir des moments d'intimité avec Dieu. La vie avec Dieu, ce n'est pas un contrat que l'on signe une fois pour toutes. C'est plutôt comme le mariage, ça s'entretient. C'est une relation. C'est une relation qu'on doit entretenir avec Dieu. Comme avec un ami, c'est pareil. On parle pas d'un ami Facebook, hein, d'un ami virtuel, même si Dieu on le voit pas. Dieu n'est pas ce genre d'ami. Il n'est pas virtuel, il est bien réel. On parle d'une relation d'amitié durable. La relation avec l'ami d'enfance, sur qui vous pouvez compter. Mais Dieu a tellement de choses à nous offrir. Il veut nous combler de bienfaits. Mais il veut aussi avoir une place dans nos vies. Notre Dieu apprécie d'avoir un retour. On ne peut pas simplement recevoir sans rien offrir. Et notre Dieu est un Dieu jaloux, en plus. Il ne veut pas une petite place parmi les ronces ou les cailloux. Il veut toute la place, la première place. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous quotidien avec cet ami? Est-ce que vous aimez passer du temps avec lui? Un semeur sorti semer. Il a fait sa part du travail, comme dit le verset de 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Alors notre semeur a planté. Et en effet, par contre, il n'a aucun pouvoir de faire germer. De la même façon, nous n'avons pas le pouvoir de toucher les cœurs. Nous pouvons simplement déposer cette graine. Peut-être que d'autres vont arroser, peut-être qu'on le fera nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est Dieu seul qui agit dans les cœurs. Pour conclure, j'aimerais simplement attirer votre attention sur un petit détail. Le semeur ne retire aucune gloire pour avoir fait son travail. Il l'a fait, c'est tout. De même, l'épi de blé ne peut pas se glorifier de porter du fruit. Je n'ai jamais vu un épi de blé avec une couronne. Il l'a fait. La gloire doit revenir à celui qui, d'une petite graine insignifiante, fait apparaître une belle plante, qui elle-même produira d'autres semences. De même, ne nous attendons pas à retirer un quelconque bénéfice en annonçant l'Évangile, si ce n'est la satisfaction du travail accompli. À chacun faire sa part. On pourrait se lancer un petit défi pour la semaine qui vient. Défi d'ouvrir sa Bible chaque jour, je ne doute pas que vous le faites sûrement, et de s'approprier un verset. Alors peut-être un verset par jour, c'est peut-être beaucoup, mais un verset au moins peut-être dans la semaine, et de se dire que le Seigneur mettra sans doute quelque chose dans votre cœur, si le Seigneur l'a mis dans votre cœur, ce n'est pas pour rien. Et peut-être il mettra une personne sur la route qui en aura besoin aussi, qui aura envie d'entendre ce verset. Mais quand je dis trouver un verset, c'est vraiment se l'approprier, s'identifier à ce verset, se l'expliquer. Je pense que c'est sûrement un très bon moyen pour commencer à s'enraciner. Et puis si vous êtes plus courageux, vous pouvez aussi préparer une prédication. C'est sans doute soi-même que l'on enseigne en premier. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec cette première expérience. À Dieu soit la gloire. Nous pouvons hâter le retour de notre Seigneur en œuvrant pour sa gloire. Alors, n'hésitons pas.